France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Est-il imaginable de croiser Elon Musk dans une farce médiévale? Est-il pensable de lire la vie d'Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Cœur de Lion? Des histoires avec des preux et des lépreux, une recluse mystique et un roi pris de folie, avec des dragons aussi, ceux du roi dans les Cévennes et ceux qui crachent du feu dans les manuscrits enluminés. Le Moyen-Âge au cœur, Clara Dupont-Monod, écrivaine et folle d'histoire, une aventure qui commence en ancien français.
Voici le texte en ancien français des passages de la chanson de Roland, mis en musique par Luigi Dalla Piccola, par Joseph Perron, le piano étant tenu par Nadine Dessouche.
Douce France, cheval chez l'empereur, lichens rôlantes à de l'enseigne fermée. En sous mon tertre, contre le ciel levé.
Ah, ça ne laisse pas indifférent, ce genre de choses. Clara Dupont-Monod, bonjour.
Bonjour, Xavier.
C'est l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1959 qui s'empare de la chanson de Roland. Vous savez, Clara, il y a bien des mystères dans l'existence, et notamment celui de savoir comment, à un moment donné, de ses études, on choisit d'étudier l'ancien français. Comment vous en êtes arrivé là, vous, à vous dire, tiens, je vais faire de l'ancien français?
Alors c'est un peu comme une rencontre amoureuse, le hasard y est pour beaucoup, puis des règles souterraines qu'on ignore. J'étais en hippocagne-cagne et puis j'ai basculé vers la faculté de lettres modernes et là je découvre l'ancien français. Je dois beaucoup à mon professeur d'ancien français, monsieur Thomasset, qui était un professeur formidable. Et là je découvre un monde. Quand vous étudiez une langue, vous étudiez la littérature, vous étudiez forcément l'histoire, et m'apparaît un univers absolument méconnu et qui pourtant explique le langage que je suis même en train d'utiliser derrière ce micro pendant que je vous parle. Qu'est-ce qui fait que pendant des siècles, les mots ont été polis de bouche en bouche pour arriver enfin à un langage articulé qui, par ailleurs, fera l'état-nation aussi?
Avec l'idée, et c'est vrai qu'elle est très très juste, il faut le rappeler sans cesse, que maîtriser le latin, le grec, ou au moins avoir des notions, c'est important pour saisir notre langue aujourd'hui, mais il ne faudrait pas oublier l'ancien français. C'est ce que vous nous dites là, notre langue, elle est issue du latin, du grec et d'autres langues aussi, mais il y a ce moment ancien français. Ça apporte quoi d'étudier l'ancien français quand on écrit et qu'on est écrivaine aujourd'hui?
Déjà, beaucoup de nuances, parce qu'autant l'ancien français a moins d'adjectifs que nous pour décrire, par exemple, des gens. Quand vous lisez le texte de Tristan et Iseut, très souvent, ils ont recours à des métaphores de la nature. Iseut a la peau blanche comme neige, les cheveux blonds comme les blés, les yeux bleus azur, alors qu'aujourd'hui, on aurait de multiples nuances de vocabulaire. Mais il y a aussi quantité de mots qui sont très subtils. Par exemple, ils ont un mot pour décrire la joie inquiète qui est celle quand vous attendez la personne aimée et que vous avez un petit serrement de cœur en même temps qu'une grande exaltation. Ça, c'est quelque chose de très subtil. Et puis, toutes nos expressions, Xavier, qui sont aujourd'hui tenir parole, mettre la table. Monsieur Thomasset, mon professeur, nous avait expliqué quelque chose qui m'avait collé au mur. Il nous avait expliqué qu'en ancien français, on pense que l'ouïe est un sentiment. Et que par conséquent, pour dire je t'aime, on dit je t'entends. Ce qui est resté aujourd'hui quand on dit deux personnes s'entendent bien ou s'entendent mal, qui signifie elles s'aiment bien ou elles s'aiment pas. Donc vous voyez ces quantités de petites passerelles comme ça qu'on a, et puis c'est ludique. Moi, à chaque fois que je vais dans les classes et que je parle de l'ancien français aux collégiens ou même aux enfants plus petits, c'est un intérêt et une espèce d'appétit de la langue, parce qu'en fait c'est très concret, c'est ce qui maîtrise tous les jours.
Avec ici le plaisir de découvrir toute une période, et quelle longue période, le Moyen-Âge. Donc c'est par la littérature et l'ancien français, Clara Dupont-Monod, que vous avez découvert cette période.
Oui, c'est vraiment par la langue. Mais si je suis honnête, j'avais quand même en hamac de sécurité derrière un papa, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui est toujours d'ailleurs aussi fou de Moyen-Âge. Donc ça a l'air de rien, mais ça veut dire quand même que vous grandissez dans un salon avec les dos de livres où il y a écrit Georges Duby, Jacques Le Goff, Martin Aurel, etc. Donc en fait, c'est une espèce de bain familier quand même. Une famille qui, sans le savoir, est très axée en vérité sur le médiéval. On en reparlera tout à l'heure, mais les gens qui habitent les montagnes, c'est le cas de ma famille, ont un rapport avec la nature où ils la personnifient beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de très médiéval aussi.
Ce sont quelles montagnes ?
Alors, ce sont les Cévennes. Et quand j'écris mon avant-dernier roman qui est s'adapté, où les pierres parlent, le fait d'animer l'inanimé, c'est quelque chose de très médiéval. Au Moyen-Âge, on donne des prénoms aux cloches, qui s'appellent Bernadette ou Marie. On part du principe qu'un pont garde la mémoire des pas qui l'ont traversé. On croise les morts au bord des chemins et on fait un petit bout de conversation avec eux. Donc, il y a quelque chose qui anime l'inanimé. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, enfant, j'ai grandi.
S'adapter, c'est un ouvrage paru aux éditions Stock, Prix Fémina, le Goncourt des lycéens. Bravo, Clara Dupont-Monod. Ce roman, c'est une histoire qui réfléchit autour de l'enfance, du handicap. Et nous ne pensons pas au Moyen-Âge à ce moment-là, quand on lit. Et en fait, vous venez de nous dire que s'il y a quand même toute cette trame par les pierres qui parlent, par exemple, qui fait que l'influence médiévale peut se retrouver dans une histoire qui et contemporaine.
Oui, et je pense que un écrivain fonctionne par obsession. Vous pouvez, si vous voulez, mettre l'action au XIIe siècle, au XIIIe, faire un livre de science-fiction, faire une chasse au trésor au XIXe siècle. En vérité, je pense vraiment que l'intrigue compte moins que l'obsession qu'on va dénicher derrière l'intrigue et qui parlera de l'écrivain. C'est toujours l'idée du livre derrière le livre. Et en fait, quand on regarde ce que j'ai pu écrire, le Moyen-Âge, il est très souvent en ourlet de chaque histoire que j'invente. Là, on vient de parler, en effet, des pierres qui parlent dans S'adapter. Au fond, mon dernier, qui s'appelle La Confrontation, et qui est ultra contemporain, mais c'est quand même l'histoire d'un tournoi entre deux personnes qui parlent, avec cette importance de la voix, parce qu'ils ne se voient pas, cette importance de la voix qui était phénoménale au Moyen-Âge, puisque on ne savait pas lire, et donc lire un manuscrit, ça signifiait qu'on l'avait entendu. Donc là aussi, on a la puissance du vocal, qui est ultra important. Je viens de parler de Louis qu'on considérait comme un sentiment. Donc vous voyez, on est toujours dans ce domaine-là.
Avec La Confrontation, ce roman paru chez Albin Michel. Oui, Clara Dupont-Monod, c'est Louis parce que ce sont deux personnes qui parlent à distance. Ah ben, je lis le résumé du livre. Émile, négociateur du GIGN, doit intervenir lors d'une prise d'otage dans une école maternelle. Une situation presque banale pour lui. À ceci près, le forcené prétend s'appeler Elon Musk.
Ta-da-da-da.
Ah ouais, mais là, on y est, on se laisse vraiment prendre. Mais dans cet ouvrage, Clara Dupont-Monod, il y a une postface, et vous dites, ce texte est une farce. C'est une farce médiévale. Expliquez-nous.
Alors, il se trouve qu'au Moyen-Âge, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, entre autres. Quand il y avait une pièce de théâtre qui était jouée, notamment sur les parvis des églises, il n'était pas rare qu'elle soit subitement interrompue par un groupe de gens un peu déconneurs, un peu fanfaron, mais qui, mine de rien, disait quand même des choses sur l'époque. Juste, il maniait l'outrance, et l'outrance comme la satire, en vérité, a ceci de particulier qu'elle pousse le curseur loin, mais en fait, elle parle d'aujourd'hui. Et j'avais très envie d'appliquer cette farce, justement ce principe de la farce, à aujourd'hui. Période qui, à mon sens, n'a jamais autant ri depuis qu'on a perdu le sens de l'humour. Et donc, c'est un rire qui, pour moi, n'a plus grand-chose à voir avec l'humour. Or, le Moyen-Âge, quoi qu'on en dise, est une immense période merveilleuse d'humour. Et d'ailleurs, j'y pense, mais ça a donné le mot farcir en cuisine, puisque c'est le principe d'arriver et d'introduire en quelque sorte quelque chose d'inattendu dans un élément qui est déjà en place. Et donc ça a donné, voilà, le verbe farcir, c'est génial. Mais tout est comme ça que l'ancien français, vous prenez n'importe quel mot, vous remontez, vous dites « Oh, mais ça parle de moi !» Eh bien oui, ça parle de toi, et ça s'appelle le Moyen-Âge. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et l'autre chose aussi que j'aimais bien, c'était que dans la négociation aujourd'hui, hein, entre que ce soit RAID ou GIGN, la seule arme de l'intervenant, ce sont les mots. Il n'en a pas d'autre. Par ailleurs, bien entendu, très souvent, il ne voit pas le forcené qui est caché. Donc, il reste plus que le langage qui va servir, franchement, d'outil crucial, puisqu'il est question de vie ou de mort. Donc, cette remise en mots, parce qu'une négociation, c'est ça. Quand on en vient à prendre quelqu'un en otage, c'est qu'on n'a plus de mots, il n'y a plus de langage. Cette remise en langage, cette révérence aux mots, non seulement c'est ultra médiéval, puisque, encore une fois, au Moyen-Âge, le mot a valeur de vie ou de mort. On arrête des guerres sur un serment, on joue sa vie sur une promesse, le mot a valeur de vie ou de mort. Il n'y a pas de période plus révérencieuse par rapport au mot que le Moyen-Âge. Mais en plus, ça vient d'un corps d'État militaire qu'on appelle la Grande Muette. C'est quand même assez génial.
Eh oui, parce que le GIGN, effectivement,
ce
l'armée,
sont des militaires.
Donc
voilà.
La Grande Muette, les mots au cœur de la confrontation et ces mots qui portent un discours sur notre présent. Et d'ailleurs, ça nous interpelle hein, sur les réseaux sociaux, sur la manière aujourd'hui de considérer le monde, mais avec toujours ces échos liés au passé. Et il y a un moment dans l'ouvrage, vous dites, c'est pas vous, mais c'est à travers vous, l'autrice, trouvez-vous normal que l'on s'écharpe autour de la religion exactement comme au XVe siècle. C'est-à-dire que les échos du passé font écho à ceux d'aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de voir dans ce monde où tout va très vite, où nous regardons notre présent, d'avoir ce négociateur, ce preneur d'otages, qui discute et qui met de la profondeur temporelle à leurs réflexions.
Oui, et c'est là où tous nos travers apparaissent. Sous couvert de grands progrès, il y a quand même des fois où on se dit que c'est une régression magistrale, notamment par exemple, mais ça, Émile, qui est mon négociateur, le dit, le fait d'assister à un lynchage sur les réseaux sociaux, c'est exactement l'équivalent d'assister à une exécution publique de mise à mort, comme on pouvait le faire, alors peut-être pas au Moyen-Âge, mais en tout cas fin du Moyen-Âge, avec une espèce de jubilation quand même très bizarre. Donc, vous voyez, c'est la condition de la femme est quand même pas top sur les réseaux sociaux quand on est une fille, puis même quand on est un garçon, mais c'est quand même assez spécial. Moi, je trouve pas que ce soit un super progrès non plus. Donc, en fait, il y a quantité de choses comme ça où la réputation, l'idée de la réputation aujourd'hui a pris une importance aussi puissante qu'au XVIIe siècle quand on pouvait se suicider pour une mauvaise réputation. Patrice Lecomte en a fait un film absolument terrible.
Ridicule.
Ridicule, exactement. Mais c'est, on n'est pas là dans un avenir non plus complètement radieux, quoi.
Et puis, il y a cette réflexion aussi sur des phénomènes de groupe et le regard porté de manière négative sur des périodes où les populations désignaient un ou une coupable. Quelque part, sur les réseaux sociaux, on sent la même chose. Hein. Chacun peut jeter sa petite pierre. Personne n'est vraiment coupable, ce n'est qu'une petite pierre. Mais avec l'amas de pierre, on peut faire énormément de mal et tuer des gens.
Exactement. Et ça a l'air de rien, mais à partir du moment où la négociation s'engage entre Émile, mon gars du GIGN, et le forcené, on va pas tout révéler, mais Émile, il a pas d'autre choix que de commencer sa négociation en disant bonjour Elon Musk. Puisqu'on lui dit, Émile, la négociation, tu sais faire, mais enfin là, on a une particularité, c'est que le forcené, il a pris l'identité d'Elon Musk. Un mois après d'installer le doute, mais on a affaire à un forcené Elon Musk qui, en vérité, est désespéré. Donc ça, Émile, il le sent tout de suite. Quand vous discutez avec les gars du GIGN qui ont eu de la gentillesse de me recevoir et de tout m'expliquer, c'est la pierre angulaire sur laquelle il faut absolument s'attacher et ne pas lâcher. Il va falloir jouer avec cette ligne de crête puisqu'il s'agit quand même de rentrer dans une logique pour l'infléchir. Il faut la comprendre mais pas la valider, cette logique, susciter la confiance mais pas la sympathie. La marge de manœuvre est d'un demi-millimètre avec, bien entendu derrière, des vies en jeu encore plus affectivement puissantes quand ce sont des petits-enfants.
Oui, et puis nous sentons bien que tout cela se joue donc au millimètre ou au mot près ou à la lettre près, avec ici un univers contemporain. Mais c'est très délicat à manier parce que nous vivons dans ce monde-là, le même que le vôtre. Donc on pourrait voir, en disant, mais non, ça c'est pas crédible. Au moment où Clara Dupont-Monod, vous vous saisissez de périodes du passé, ben, le travail est le même, c'est tout aussi délicat parce qu'il ne faut pas se planter, il faut là aussi travailler au millimètre, à la lettre près.
Alors l'enjeu dans ces cas-là, le plus difficile, c'est de rester romancier. Par exemple, quand j'écris deux livres sur Aliénor d'Aquitaine ou que je reprends le mythe de Tristan et Iseult en me mettant à la place du mari, ou Juette qui a vraiment existé, par exemple, l'idée, c'est de rester romancier. Il faut un an de documentation, enfin c'est comme ça que je fonctionne, un an de documentation et un an où j'oublie tout. Et en fait, cette année où j'oublie tout, ce que je viens d'ingurgiter, ça a valeur de filtre, de tamis. Ne vont rester que les éléments qui seront indispensables au roman, à l'avancée de l'intrigue. Mais il faut rester romancier, il faut pas devenir historien, c'est ça qui est difficile. Or, il y a toujours cette petite voix un peu scolaire à l'intérieur de nous qui dit « Ah ben non, tu peux pas écrire ça, ça s'est pas passé comme ça ». Ben oui, mais c'est pas grave. Si j'ai envie d'écrire Aliénor d'Aquitaine, posa sa fourchette et leva la tête, il y avait pas de fourchette à l'époque d'Aliénor, et ben c'est pas grave. Si à ce moment-là, ça a vraiment une fonction, que ça n'est pas gratuit, alors il faut que je puisse m'autoriser à l'écrire. Et je me souviens très bien que le premier paragraphe de La Révolte, donc c'est Aliénor d'Aquitaine raconté par son fils Richard Cœur de Lion, je m'en veux beaucoup, puisque j'écrivais « Ses longues manches caressent le sol ». Et j'adorais cette idée, c'était l'idée que ça posait le corps d'Aliénor, sa stature, son rang, l'idée des grandes manches comme ça, j'adorais. Je suis allée à un colloque sur le vêtement au Moyen-Âge, évidemment je pose la question, et on me dit « Mais pas du tout, il n'y a pas du tout de manches qui caressent le sol à l'époque d'Aliénor, ça arrive, je ne me souviens plus, soit un peu après, soit un peu avant ». Et comme une bonne élève, que je ne devrais pas être, je reviens et j'écris, je crois, le bas de sa robe caresse le sol. Enfin bref, j'abandonne l'idée des longues manches. Et je m'en veux encore en me disant, bah tu vois, t'aurais dû rester à ce moment-là romancière. Ça n'est pas grave, ça avait son sens.
Oui, parce que c'est très juste de dire cela. La littérature qui se porte sur le passé n'est pas un livre d'histoire, d'historien ou d'historienne. C'est pas la même chose.
C'est ça. Et très souvent, c'est pour ça que je plaide, moi, pour une complémentarité entre la fiction et l'histoire. C'est l'éternelle complémentarité pour moi entre l'imaginaire et la science, que Jules Verne avait évidemment compris. Pardon. Et ça n'est pas du tout une opposition entre les deux.
Avec le besoin de documentation, vous nous l'avez dit, un an de documentation. Mais pour cela, c'est pas difficile, Clara Dupont-Monod, parce que vous allez chez votre papa. Vous avez dit, il y a tous les livres, vous nous les avez cités. Il y a les livres de Jacques Le Goff et de Georges Duby.
Elle vit très longtemps, Aliénor. Oui. Et elle défraie la chronique, si l'on peut dire, depuis son mariage avec Louis VII en 1137, jusqu'à sa mort dans les premières années du XIIIe siècle. Alors, un mythe en même temps. Le mythe, quel est-il ?
Le mythe se forme du vivant d'Aliénor. C'est ça qui est très important, parce que, justement, elle a fait scandale deux fois, essentiellement. D'abord, en demandant elle-même à se séparer de son mari, ce qui ne se faisait pas, et ensuite en dressant les fils de Henri II contre leur père. Et on a parlé beaucoup d'Aliénor de différentes façons, en se moquant de Louis VII, le roi cocu, bon, et d'autre part en considérant que cette femme était une femme abusive. Et le mythe qui s'est formé au XIIe et qui s'est épanoui au XIIIe siècle est péjoratif. Soit c'est une mauvaise femme. Bon, c'est une putain, disons.
Quelle conversation, Jacques Le Goff, Georges Duby, en 1995, dans les lundis de l'histoire sur France Culture, avec ici deux grands noms.
Oh là là.
Ça fait rêver toujours de les entendre tellement réfléchir, et surtout ce vocabulaire utilisé. Clara Dupont-Monod, vous avez consacré deux romans, on va dire, autour d'Aliénor d'Aquitaine. Il y a La Révolte, paru chez Stock en 2018, et Le roi disait que j'étais diable. Et dans chaque position, il y a un narrateur, une narratrice, dont vous vous emparez de façon à raconter cette histoire-là. Alors, vous faites parler Richard Cœur de Lion, le fils, et à un autre moment, vous faites parler Aliénor, c'est pas difficile ce jeu? Comment vous le maniez? Comment vous le construisez?
Oh non, c'est merveilleux. Aliénor d'Aquitaine, quand on aime le Moyen-Âge et qu'on écrit des romans, c'était quand même un peu le dragon auquel il fallait à un moment ou à un autre se confronter. Moi, jusqu'à présent, j'ai beaucoup fait j'aime bien cette idée de sortir un personnage de l'ombre qui a été broyé par l'ingratitude de la postérité, que ce soit le roi Marc dans Tristan et Iseut, que ce soit Juette, et Aliénor n'obéissait pas à ce cas de figure. Aliénor, tout le monde connaît. Elle est un peu même écrasée par sa propre légende. Quand vous allez dans le sud-ouest, il y a des maternités Aliénor d'Aquitaine, il y a des collèges Aliénor d'Aquitaine, il y a des parkings Aliénor d'Aquitaine. Elle est partout. Et puis par ailleurs, c'est vraiment une figure tutélaire archi connue. Donc à un moment, je lui tournais un peu autour. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir de ces deux livres où j'ai eu l'impression de me battre avec elle. C'est-à-dire, j'en suis sortie complètement lessivée. Elle me donnait assez peu de choses, en même temps que je l'admire immensément. On sait en vérité très peu de choses sur Aliénor. Pour vous donner juste un exemple, on n'a pas décrit son physique. Le seul mot qu'on a, c'est un mot occitan qui est perpulcras, qui signifie très belle. Bon, enfin bon, c'est assez vaste. On arrive à procéder par déduction. La femme belle au Moyen-Âge était forcément blonde. La sorcière était brune. Donc, si elle avait été brune, on peut imaginer que ses détracteurs auraient laissé des textes en disant « Ah ben, vous voyez, elle est brune comme une sorcière ». On n'a pas ça. Peut-être qu'on les a pas retrouvés, cela dit. Mais en tout cas, il y a un point d'interrogation. Moi, j'ai fait quelque chose d'un peu milieu. Je lui ai donné des cheveux châtains. Et, par contre, j'y tenais des yeux gris. Parce que gris d'orage, gris de mur, gris de pierre, gris de rempart, parce qu'Aliénor, pour moi, c'est ça. Et à partir du moment où j'avais plus la légende, en fait, sous la main que le personnage, il fallait que je biaise. Je pouvais pas m'attaquer à la légende. D'abord, elle est bicéphale. Il y a une légende noire et une légende rose. C'est impossible de s'attaquer à une légende. C'est la pire ennemie de l'écrivain, la légende. Donc, prendre un chemin de traverse. Or, de 13 à 30 ans, je m'aperçois qu'elle est mariée à ce Louis VII qui est complètement dingue d'elle, et elle, pas du tout. Et je vois après que de 30 ans jusqu'à sa mort, en gros, elle jette son dévolu sur Henri, 13 ans de moins qu'elle, ce qui en fait quand même une jolie cougar, et que là où elle avait eu deux enfants avec Louis VII, brusquement, boudouboudoum, elle s'en fait 8 en l'espace de 10 ans. Et là, je me dis, quand même, quand même la dame, quoi, respect. Et il y a quand même ces deux voix masculines qui m'intéressent. Donc, je fais Aliénor, racontée par son mari, malheureux en amour. Et à ce moment-là, en fait, c'est les échos du roi Marc dans Tristan et Iseut. C'est le mari qui est donc amoureux de sa femme et ça n'est pas réciproque. Et qui, fondamentalement, n'arrive pas à lui en vouloir. Ce qui est d'une modernité folle, en fait. Donc là, c'est moi, je nage en eau connue, que j'adore. Donc, mon Louis VII, que je prends, qui, au fond du fond, est presque plus évolué qu'Aliénor. Aliénor, elle reste seigneur féodal jusqu'au bout. Elle veut ses terres, elle veut sa monnaie, elle veut ses lois, elle veut son Aquitaine. Louis VII, il est beaucoup plus diplomatie que guerre, il est beaucoup plus territoire unitaire, en fait, que morcellement féodal. En vérité, moi, je persiste à penser qu'il est un peu plus moderne qu'elle. Et puis ensuite, Richard Cœur de Lion, qui est ce fils préféré, à qui quand même sa mère demande de prendre les armes contre son propre père, donc conflit de loyauté terrible, il lui obéit parce qu'il peut pas faire autrement. Comme moi, écrivain, je peux pas faire autrement que d'obéir à Aliénor. Il prend les armes avec ses frères, et elle perd Aliénor pour la première fois de sa vie quand même. Elle va lever une armée européenne contre son mari, qui a vent de la révolte, qui arrive à attraper Aliénor, qui par ailleurs s'est quand même déguisé en homme pour échapper à son mari, et qui se fait attraper sur une route de campagne près de Chartres, bon bref. Et donc, il la met dans une tour en résidence pseudo-surveillée pendant 14 ans. C'est Richard qui vient l'ouvrir, elle est en grande forme. Enfin, je veux dire, pardon, c'est quand même... À ce moment-là, c'est le fils qui raconte la mère qui m'intéresse.
Oui, parce que... Clara Dupont-Monod, au moment de m'intéresser, je parle de moi en tant que lecteur à Aliénor d'Aquitaine... Si je veux de l'histoire, je vais lire un ouvrage d'histoire. Martin Aurèle, par exemple. Excellente biographie d'Aliénor d'Aquitaine. Et quand je veux ce plaisir de la lecture, bah, je vais vers la littérature. Mais l'idée que une biographie soit romancée et que ce soit la même chose est un exercice beaucoup plus délicat. Et de jouer dans ce que vous faites en poussant le curseur loin de la littérature montre là les deux démarches que l'on peut adopter face à un personnage du passé.
Oui, parce que les blancs de l'histoire, qui sont le cauchemar de l'historien, sont la gourmandise de l'écrivain. Nous, écrivains, on comble les blancs avec ce qu'on peut trouver dans nos têtes et bien sûr inspirer de la documentation. L'historien, il peut se faire des nuits blanches, justement, parce qu'il y a ces trous dans l'histoire qu'il ne pourra jamais complètement combler, évidemment, faute de sources fiables. Et c'est très bien que vous citiez Martin Aurel, qui était mon grand ami. Martin, on a eu des discussions, lui et moi, il n'est plus là, hélas, absolument passionnantes, autour de ces blancs. C'était un des rares historiens que je connais qui était capable de tout à fait comprendre cette complémentarité histoire et roman. Et nous avons donné des tables rondes un peu partout en France, justement avec Aliénor d'Aquitaine, vue par l'écrivain et vue par l'historien. Et on a eu des joutes verbales, justement, comme dans la confrontation, autour de ça. Mais c'était le seul à qui je pouvais dire Martin, en 1124... Alors, peut-être pas en 1124, mais en 1174, le soir du 12 août, Aliénor, elle dîne quoi, carpe ou lapin? Et lui, capable de me répondre, lapin, tu sais bien qu'elle digère pas le poisson. Voilà, c'était ça, notre discussion merveilleuse. Mais vous voyez, c'est l'idée du blanc qu'il faudra bien combler et, par exemple, faire des jonctions que l'historien n'avait peut-être pas vues. Le premier enfant d'Aliénor d'Aquitaine s'appelle Guillaume. Il meurt très tôt, à l'âge de 3 ans. Moi, j'en ai fait une vraie douleur de mère. On ne le saura jamais, en fait. Et la fille d'Aliénor, quand elle devient maman à son tour, appelle son enfant Guillaume. Évidemment que l'historien va vous dire Guillaume, c'était le prénom le plus donné au Moyen-Âge, ce qui est vrai. Mais moi, écrivain, je peux arriver et dire, bah oui, mais là, la fille d'Aliénor, elle fait un petit pont avec ce frère disparu, et là, déjà, on marche un peu dans s'adapter. S'adapter, c'est l'histoire d'un enfant qui meurt, avec les frères et sœurs qui prennent le relais, en quelque sorte.
Avec ces pierres qui parlent, avec s'adapter, et l'idée, vous venez de le dire, Clara Dupont-Monod, de combler ces blancs. Alors, dans le cas des personnages bien connus, Aliénor d'Aquitaine, parce qu'il y a des biographies, il y a des ouvrages, c'est une approche autre et particulière d'ailleurs, et parfois, les personnages ne sont pas connus. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez mettre en lumière des gens oubliés.
En 1172, une fille nommée Yvette, ou plutôt Juette, vivait à Huy. Dans cette petite ville de l'actuelle Belgique, alors en pleine expansion économique, l'argent coulait à flot. Juette avait 13 ans. C'était l'âge où l'on mariait les filles. Son père, receveur des impôts que l'évêque de Liège levait dans le pays, était riche. Il prit conseil de sa parenté et choisit pour elle un époux. Juette n'a pas compté dans l'histoire. Elle est très loin d'avoir occupé dans l'esprit des hommes, ses contemporains, la place que tenaient Aliénor ou Héloïse, mais le récit de sa vie s'est conservé. Un religieux de Floreffe, maison de l'ordre de Prémontré, l'écrivit vers 1230. Il était bien informé, l'abbé de son monastère venait de recevoir la dernière confession de la mourante, et lui-même avait été son confident. Il avait écouté parler, il s'était efforcé de rapporter fidèlement ce qu'il avait entendu.
Les dames du XIIe siècle de Georges Duby, lu dans le cours de l'histoire par Laurence Millet. Laurence qui réalise aussi cette émission, le cours de l'histoire, la technique, Grégory Wallon. Georges Duby, les dames du XIIe siècle, et nous croisons ici une recluse, une mystique.
Oui, que j'ai découverte en lisant justement le texte qu'on vient d'entendre de Georges Duby. C'est un petit livre qui s'appelle « Dames du XIIe siècle ». Et dedans, il met aussi bien les très connus que les anonymes. Et c'est comme ça que je tombe sur Juette, en lisant Duby. Et je suis estomaquée par le courage de cette très jeune fille que son père marie. Elle se retrouve veuve ensuite. On la remarie et là, elle dit non. C'est quand même assez puissant. Visiblement, c'est aussi ce qu'avait harponné le cœur de Duby. Par la suite, c'est par ce non, notamment aux règles et patriarcales et aussi cléricales, parce qu'elle dit non surtout au clergé. Elle dénonce aussi les abus du clergé. Et c'est elle qui, en quelque sorte, lancera la vague hérétique qui va déferler sur l'Europe un peu plus tard. Elle sera considérée pas loin d'être un peu sorcière, mais on renoncera à la mettre, à la qualifier d'hérétique et à la mettre sur le bûcher, en raison de la popularité dont elle jouissait en Belgique et en Europe entière. Enfin, moi, cette petite Juette, ça a été la, une des encore maintenant, hein, un grand lien que j'ai. Et quand je suis en signature dans les salons ou dans les librairies, je suis toujours contente quand, quand les gens viennent et me disent « Ah, bah, vous savez, moi, c'est Juette que j'ai beaucoup aimée. » Elle a son petit chemin dans le cœur des gens. Et c'est là où je me dis quand même, la littérature, c'est fabuleux parce que ça permet de donner une voix à ceux qui en ont plus. En tout cas, ça protège de cette deuxième mort qui est l'oubli. Et ça, par exemple, Aliénor d'Aquitaine, elle y échappe à ça. Elle n'a pas besoin de moi, en quelque part. Juette, oui. Et vous mesurez toute la puissance du roman et de la littérature contre cette deuxième mort qu'est l'oubli. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que j'ai pu aller en Belgique. Juette habitait une petite ville qui s'appelle Huy, H-U-Y. Et là-bas, on prononce oui, le U, c'est où. Et un lecteur, je me souviens, m'avait dit, mais enfin, Clara Dupont-Mouneau, comment vous expliquez qu'une jeune fille qui est passée sa vie à dire non habite une ville qui s'appelle Huy? Et ça m'avait... C'est génial, non?
Ah, j'adore.
Oh, mais c'est génial. Et là-bas, il y a des processions juettes. Ils n'ont pas du tout oublié. Il y a tout est très bien ménagé. C'était une grande émotion.
La passion selon Juette, avec la volonté de se saisir de ce personnage. Étonnant d'ailleurs, hein, parce que nous sommes au XIIe siècle. L'idée même d'être recluse, c'est un phénomène compliqué, même de l'expliquer. Pourquoi, comment, alors qu'aujourd'hui, quelque part, nous avons tant et tant de gens reclus, enfermés dans leur monde, et celui qui nous est offert par les réseaux sociaux. La volonté de partir vers d'autres périodes, Clara Dupont-Mouneau, c'est aussi effectuer des rencontres. Là, on l'entend bien avec Juette, c'est une rencontre. Et puis, sortir peut-être de notre présent. Pour mieux comprendre le présent, bien sûr, toujours.
Oui, mais cela dit, je reste convaincue que si vous sortez du présent même 5 minutes, ça donne déjà un livre historique. Donc de toute façon, cette idée finalement de d'histoire, pas d'histoire, tous les romans sont d'histoire. À la limite, même la confrontation, je mets l'action en 2026, alors même que j'anticipe, au fond du fond, on est déjà dans une forme de passé. Donc alors là, on est vraiment sur France Culture avec ce genre de phrase, mais ce que je veux vous dire, c'est que en fait, il suffit de prendre un peu de recul sur une situation pour déjà qualifier votre matière littéraire de matière historique. Le principe de l'écrivain, c'est de transformer un objet en sujet. C'est exactement ce que je fais avec Elon Musk. Elon Musk, à partir du moment où il m'inspirait, et toujours d'ailleurs, crainte et méfiance. De passer d'un objet de crainte à un sujet littéraire permettait de désamorcer l'effroi qu'il m'inspire. Donc vous voyez, ça c'est déjà une démarche d'historien en fait.
Oui, parce que c'est vrai que la temporalité fait que très vite nous sortons des éléments qui sont concrets, qui se sont passés, le salon Vivatech,
voilà,
en 2024.
Exactement.
Ça y est, c'est déjà de l'histoire. Et puis ça permet de désacraliser, c'est vous qui le dites, hein, Clara Dupont-Mouneau, car la farce qui nous vient du Moyen-Âge reste une force de désacralisation. Il y a de ça aussi qui est très intéressant dans ce regard porté par la pensée médiévale. On la considère moins maintenant aussi négativement que c'était le cas par le passé.
Ah ouais, enfin quand même, vous trouvez encore des titres de journaux dès qu'on parle d'obscurantisme,
oui,
de
vrai.
Barbarie, on lit le mot moyenâgeux, ce qui me rend dingue, alors que par bien des aspects, on est beaucoup plus archaïque que le Moyen-Âge, pas surtout parce qu'il s'agit pas d'idéaliser non plus une période, ce qui serait complètement erroné, mais c'est vrai quand même que par quantité d'aspects, le Moyen-Âge est beaucoup plus moderne que nous. Prenez le rapport à la violence, moi c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Nous sommes dans une période où la violence, elle est complètement niée, on met un couvercle dessus, et résultat des courses, en fait, elle est décuplée. Regardez les mots qu'on emploie pour dire qu'on licencie quelqu'un, on dit qu'on le remercie. Enfin, je veux dire, c'est quand même phénoménal. C'est ultra brutal quand même de dire à quelqu'un qu'on te remercie alors qu'en fait on te vire. Donc le Moyen-Âge, en revanche, est une période qui ne nie pas la violence de toute façon inhérente à toute société. En revanche, il la codifie. il la régule au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il y arrive, évidemment, mais quand même, il la régule. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne termine pas un tournoi en tuant l'adversaire. Quand je pose un GIGN avec un forcené dans La Confrontation, mon dernier roman, le but du jeu d'Émile, mon négociateur du GIGN, c'est de ne pas tuer le forcené. Et quand on discute avec les gars du GIGN, ils vous disent, bon, dans le meilleur des cas, essayez de prendre la personne vivante, pour qu'il y ait un procès, pour que quand même on puisse rendre des comptes, etc. Au fond du fond, ça c'est une logique complètement médiévale de tournoi. Donc vous voyez, on est... Et puis cette idée des mots, encore une fois, qui est peut-être la chose la plus importante du Moyen-Âge, si moi je prends Elon Musk, c'est parce qu'en fait... Mine de rien, le monsieur, il consacre sa vie, sa fortune et sa carrière à détruire le mot. Tous les réseaux sociaux, c'est quand même pas des tapis rouges pour les mots. Bon, l'intelligence artificielle consiste à supplanter la parole humaine et coloniser la planète Mars, c'est quand même occuper des espaces sans langage. Donc en fait, lui, il est, quand on regarde bien et qu'on prend du recul, il est obsédé par l'élimination du langage. Il fallait forcément que ça parle à un écrivain. Un écrivain ne peut que prendre les armes pour aller s'occuper de ce terrain-là. Donc, moi, je campe un Elon Musk qui, en vérité, adore les mots et désespéré de ce qu'il fait, se sent hyper coupable de sa carrière toute pourrie, là, où, en fait, il veut viser l'élimination de ce qu'il adore. Et ce qui met la puce à l'oreille d'Émile, le négociateur, c'est qu'il dit à un moment à ses supérieurs, il dit, mais moi, le forcené, là, qui s'appelle Elon Musk, il adore discuter avec moi. Il adore les questions en chausse-trappe, les débats en forme d'impasse. Il est très demandeur de ça. D'ailleurs, à un moment, on dit à Elon Musk, on va tourner et changer de négociateur pour qu'Émile se repose. Et Elon Musk est furieux et dit, si vous faites ça, je fais tout sauter. Donc, on lui rend Émile. Donc, il est très friand de ce lien langagier avec Émile. Donc, à un moment, Émile, d'ailleurs, il se pose la question, il dit, mais... Si ça se trouve, que tu t'appelles Elon Musk ou Jean-Claude ou Kevin ou qui on veut, en vérité, j'ai affaire à quelqu'un qui adore les mots et qui se pardonne pas d'avoir consacré sa vie entière à l'élimination de ce que fondamentalement il aime.
C'est l'argumentum, c'est l'idée d'échanger, alors là c'est très médiéval, hein, de voilà. Pouvoir réfléchir cet espace qui existe entre le très concret et le complètement fictionnel. Et ici, vos mots, Clara Dupont-Mono, ils sont particulièrement efficaces. Alors, qu'il s'agisse de La Confrontation, où là un négociateur du GIGN se trouve face à Elon Musk pour une prise d'otage dans une maternelle, bien sûr. Que ce soit dans S'adapter, où là les pierres parlent, ces pierres... Ce sont lesquelles ? Ce sont des pierres qui sont localisées ?
Ouais, dans les Cévennes, où il y a mon berceau familial. Mes parents habitent là-bas, ma famille est originaire des Cévennes. Et moi, j'ai grandi avec cette idée du minéral permanent qui fait partie de votre vie. C'est vraiment l'idée d'escorte, en fait, mais très médiévale à nouveau. Mais c'est l'idée d'escorter quelqu'un. Je pense que le lieu vaut parfois pour lien de parenté. Je crois très profondément à la puissance d'un endroit, et je pense que c'est pas un hasard si, en français, il n'y a qu'une lettre de différence entre lieu et lien, et d'ailleurs qu'on lien de parenté qu'on retrouve dans l'expression « enfant du pays ». Qui dit bien le lien organique qu'on peut avoir avec une terre, avec un endroit. Il y a parfois des lieux d'adoption. Ce sont ces gens qui vous racontent qu'ils ont eu un coup de foudre pour un endroit, pour une maison, et qu'ils ont tout quitté pour finalement aller s'implanter là. Ce sont ces gens comme vous, comme moi, comme très souvent, vous avez des places qui vous... rassure, apaise. D'autres, vous supportez pas d'y aller. Vous voyez bien ce lien d'affect absolu qu'on a avec les endroits. Et ça, j'y crois très profondément. Ça, c'est hyper médiéval. C'est hyper médiéval. Il y a même des fois au Moyen-Âge où le lieu vaut pour prénom. Du moulin, du pont, j'en sais quelque chose, de la forêt. Vous voyez, il y a les métiers, bien sûr, qui donnent des patronymes. Il y a les caractéristiques physiques, le brun, le blond, le grand. Mais très souvent, il y a aussi le lieu.
Et dans les familles aristocratiques, même le lieu devient parfois le nom, parce que
exactement.
Le de, c'est un lieu de quelque part.
Exactement. Le blason, la revendication d'un endroit, en fait, c'est resté aujourd'hui. Et donc, cette idée du territoire qui façonne quelqu'un, on le trouve dans tous mes livres. Ça, c'est hyper médiéval. Mais on le retrouve partout. Et d'ailleurs, ce que dénonce en quelque sorte aussi la confrontation, c'est la dilution de ce territoire. Quand vous êtes sur des réseaux sociaux, quand vous êtes derrière un écran, c'est la dilution de cet endroit qui, en quelque sorte, vous définit. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. On est très souvent défini par un endroit, soit par opposition, en disant je veux plus jamais y mettre les pieds, ça me parle pas du tout, j'en suis partie, soit justement par presque association, par fusion, où on a l'impression qu'un paysage fait partie de nous. Mais de toute façon, ce lieu, il est important. Et je pense que toute cette société des écrans, du numérique, etc., aura, à mon avis, complètement dissous territorialité qui nous définit, mais leur résistance s'organise parce que regardez comme reviennent en puissance l'idée du village, l'idée du territoire, l'idée du local. Ça, c'est l'idée de la source, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et qui, quand même, c'est comme si un contrepoids venait s'opposer à cette idée du grand tout qui est cette société complètement globalisante des écrans.
Retour au local et ce lieu pour vous, Clara Dupont-Monod, ce sont les Cévennes, lieu chargé d'histoire.
Nos frères parisiens ont été torturés, martyrisés. Et aucun des grands seigneurs protestants n'est intervenu auprès du roi pour empêcher ces horreurs.
Disons tout de suite cela, parce que j'étais petit, que ma foi, je faisais des bêtises, comme tous les enfants. Ma grand-mère me disait « tu es méchant comme un dragon ». C'était l'expression consacrée. Être méchant comme un dragon, c'était l'injure suprême qu'un enfant pouvait recevoir de ses grands-parents.
Souvenez-vous que notre Seigneur choisit ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis, sans que l'on puisse savoir comment il les choisit.
Écoute-moi bien, petit hérétique. Nous avons 10 jours pour vous faire changer de religion, toi et ta famille. 10 jours pour apporter ce cadeau au roi. Et mes soldats ont envie de faire plaisir au roi. C'est compris ?
Effectivement, la dragonnade dans les pays a laissé des souvenirs durs, très durs.
Les protestants des Cévennes, dans une émission consacrée aux dragonnades en 1976. Alors là, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, hein. Nous sommes sous Louis XIV avec ces protestants, la révocation de l'édit de Nantes notamment. Cette histoire-là, c'est la vôtre, Clara Dupont-Monod ?
Ah non, pas la mienne à moi, mais vous prenez n'importe quelle famille protestante, que ce soit d'ailleurs dans plusieurs coins de France, je suis en train de réfléchir, mais vous avez dans le Sud-Ouest, il y en a beaucoup, en Dordogne, en Ardèche bien sûr. Alors moi, c'est les Cévennes. Fief familial, les calvinistes des Cévennes, et je reste ultra attachée à cette culture, alors peut-être plus que la foi religieuse, mais en tout cas, cette culture protestante qui m'a bercée, ça va te pair avec ce qui, à mon avis, peut accompagner très souvent l'idée de la minorité anciennement opprimé, l'idée de la résistance aussi, de l'idée du poing serré. Je pense que c'est pas complètement hasard si, romanesquement parlant, je suis allée vers des figures que j'appelle aux mâchoires contractées, aux poings serrés, à la nuque droite, avec cette idée de guerre, de vaillance aussi. Terre chargée d'histoire quand même, gorgée de sang. Et avec cet état d'esprit que moi j'aime beaucoup et qui consiste quand même à dire qu'en effet, on vient de l'entendre, il n'y a pas tellement de paradis ou d'enfer, mais en gros, tu fais ce que tu peux. Et surtout, l'idée de la foi religieuse qui est passée au crible du doute. C'est-à-dire que la foi ne vaut que parce qu'elle est remise en question. Ce qui donne une approche extrêmement philosophique, avec beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus qu'un dogme asséné de façon un peu, je trouve, un peu aveugle et un peu automatique.
Vous nous avez expliqué que à la maison, votre père, féru de Moyen-Âge, féru d'histoire. Votre mère aussi
Oui, oulala, vous...
J'ose pas m'avancer.
Non, si. On est du côté du Mont-Aigoual, dans les Cévennes. Alors, pour qui connaît, parce que souvent les gens connaissent pas bien, c'est vrai que c'est très mal desservi, que c'est un peu à part, mais c'est ça qu'on aime aussi. Il y a une montagne qui culmine, qui s'appelle le Mont-Aigoual, dans le Gard. Et ma famille vient du pied du Mont-Aigoual. Mais attache aussi côté paternel du côté d'Anduze, là plus aux portes des Cévennes, où il y a d'ailleurs un très très grand temple, je me demande si c'est pas le plus grand de France d'ailleurs. Donc vous voyez, on barbote dans un écosystème même géographiquement très précis.
Il y avait une transmission de l'histoire dans la famille, parce que ce n'est pas tout d'avoir des parents qui aiment l'histoire. Après, il faut réussir à transmettre. Alors quand le terreau est favorable, c'est votre cas, Clara Dupont-Mono, il y a cette passion, cette appétence pour l'histoire, mais l'histoire familiale, on vous la racontait à la maison?
Oui, alors plus du côté de la Deuxième Guerre mondiale, où mon grand-père était résistant, était médecin, résistant, escorté justement par ma grand-mère, et donc nous, cousins, nous avons été beaucoup bercés par ces récits de risques pris, de craintes, de suspense terrible, mais c'était des protestants, donc en fait, ils la ramènent pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi que moi je trouve très beau, de jamais le mettre en avant, et plutôt d'être dans l'ombre. Le protestant, c'est pas quelqu'un qui émande beaucoup les projecteurs, hein, ça le met pas très à l'aise, et d'où aussi leur légende noire, à savoir ils sont dans l'ombre et ils dirigent tout, bien sûr, mais c'est des gens discrets quand même, et donc ils l'ont jamais complètement mis en avant. Dans le village où mon grand-père a notamment été résistant, qui est un village, alors pour le coup pas dans les Cévennes mais en Lozère, il y a une plaque dans ce village-là, village que moi j'aime beaucoup, nous avons gardé une maison là-bas où j'essaie d'y aller, et voyez, donc, mais mis à part ça, c'était des récits transmis aux petits-enfants, et avec une sorte d'état d'esprit, avec cette idée quand même qu'ils nous ont distillé, à savoir, quand tu peux, essaie de mettre en adéquation tes valeurs avec tes actes. Tu n'y arriveras pas toujours, on entend, mais essaie au maximum. Et ça, c'est quelque chose qui vous forge une sorte de colonne vertébrale psychologique, quand même.
Dans la famille Mono, il y a des noms qui sont connus, restés, Théodore Mono, notamment.
Oui, alors on le ressort à chaque fois.
Bah, oui. Ouais. C'est pas écrasant
Non, mais surtout, ça me fait rigoler, parce que, pour le coup, Théodore Mono, moi, je l'ai vu une fois dans ma vie. C'est une très, très grande famille, les Mono. Il y a des branches, et c'est pas... Par exemple, Théodore, je l'ai vu qu'une fois, donc, lors d'une manifestation familiale où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et quand on me prête des origines, il paraît Saint-Louis ou je sais pas quoi.
Ah ouais,
Bon, ça me fait marrer, mais si vous voulez, on m'a expliqué aussi que Jean-Luc Godard faisait partie des Mono.
Jean-Noël Jeannet.
Ouais, voilà, qui m'appelle très gentiment cousine en rigolant. Mais si vous voulez, ce sont pas des gens que je connais plus que ça. Moi, ça reste très restreint dans ma famille des Cévennes. Voilà, c'est mes cousins-cousines qui n'ont pas non plus eux de lien avec les grands noms prestigieux des Mono.
Oui, Théodore Mono, naturaliste, cet érudit, cette grande figure, ouais, hein, qui traverse le
désert. Mais que j'admire beaucoup.
Mais voilà,
bien
qui est admirable. Mais c'est toujours intéressant, Clara Dupont-Mono, de voir entre ces familles, et toutes les familles sont gigantesques, parce que on le sait bien, hein, deux parents, quatre grands-parents, et voilà, ça fait très vite beaucoup de monde. Et puis la réalité des liens familiaux, la réalité de la proximité, et toutes ces appétences, l'importance de la famille. Et d'ailleurs, au moment où vous écrivez un ouvrage, qu'il s'agisse d'Aliénor d'Aquitaine ou de n'importe quelle époque, moment du Moyen-Âge, vous le ramenez à la maison, vous avez un retour de votre père féru d'histoire.
Oui, alors, comme je vous l'ai dit, ma famille étant protestante, il faut aller chercher un peu les réactions quand même, un peu moins maintenant. Mais ce qui est très drôle, par exemple, c'est que quand j'ai écrit « S'adapter », alors là, pour le coup, en plus, je mettais quand même une histoire personnelle. Je ne m'en cache pas du tout, mais il se trouve que dans notre famille, nous avons eu un enfant handicapé qui est mort quand il avait une dizaine d'années, qui était mon frère, et donc « S'adapter », j'ai eu envie de raconter cette histoire-là, mais racontée par la fratrie, elle-même racontée par les pierres d'une maison dans les Cévennes qui veillent en quelque sorte sur la fratrie. Et je me rappelle que quand j'ai donné le texte à lire quand même à ma famille, parce que là il s'agissait quand même d'un terreau commun, je leur ai donné 3 jours pour le lire, sinon j'avais peur d'attendre un peu longtemps. Et pour vous donner une idée, ma mère m'appelle en me disant « Bon ma chérie, j'ai lu, écoute, formidable, très bien, bien écrit, tout ça. Vraie question, qui ça va intéresser ? » Voilà, donc j'étais là. « Eh ben écoute, maman, je t'embrasse. » Et ensuite, mon frère m'appelle en disant « Bon, Clara, c'est moi. Écoute, j'ai lu, très bien, parfait, tout bien écrit, tout ça. Vraie question, qui va acheter ça? Donc voilà, donc ça vous donne une idée. Et là, je me dis, bon, ils ont sans doute aimé. Et mon cousin, pareil. Enfin, c'était très amusant. Mais moi, je pense que c'est le lien qu'on peut avoir entre un texte, entre un livre et soi, est un lien, en vérité, très intime. Donc moi, je pourrais jamais prendre mal que quelqu'un autour de moi ne lise pas mes livres. Je comprends tout à fait. Pour le coup, on est aussi dans le même registre que le lien qu'on peut avoir avec un lieu. C'est extraordinairement personnel. Donc, que quelqu'un soit n'accroche pas, soit n'y aille pas, parce que le Moyen-Âge, ça lui parle pas, parce que il a un peu la trouille, parce qu'il n'est pas féru de ce genre-là, ça veut pas dire que le livre est mauvais, ça veut pas dire que vous êtes, vous, personne mauvaise. Il faut laisser, je pense, le loisir à la personne d'avoir un lien perso avec un livre. C'est très intime, le lien qu'on a avec un livre, quand même. Ça va vous accompagner, ça va vous parler au cœur, vous chuchoter à l'oreille, ou au contraire, pas du tout. Ça va rester dans un salon que moi, je ne connais pas, sur une table de chevet de gens que je ne connais pas. L'histoire, c'est plus la mienne. Elle se joue entre le lecteur et le livre. Donc, à partir de là, moi, j'ai presque pas à m'en mêler.
Oui, parce qu'écrire un livre, ce n'est pas écrire à une personne en particulier, sinon on fait une lettre.
Ouais.
C'est écrire comme ça, avec l'idée aussi de transmettre des choses. Et Clara Dupont-Monod, en vous saisissant du Moyen-Âge, vous transmettez aussi le goût du Moyen-Âge, l'idée que la période mérite d'être explorée. Ah. Et à partir de vos romans, il peut y avoir l'envie ensuite d'aller lire des ouvrages. Nous avons cité un Martin Aurel, Georges Duby, mais il y en a tant et tant d'autres.
Oui, et ça fait très plaisir quand vous êtes écrivain. Ça, c'est très gratifiant. Les gens qui vous disent « Ah, vous voyez, je connaissais pas bien Aliénor d'Aquitaine », j'ai lu votre roman, du coup, je vais aller voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. En plus, il y a un jeu de cache-cache que moi, j'aime bien. J'aime bien mettre des postfaces où j'explique, en fait, en disant, voilà, j'ai respecté la chronologie, mais je me suis autorisée, ça, c'est inventé. Et donc, ce jeu, après, je trouve ça très amusant. Et puis, cette idée aussi que... Il y a beaucoup de gens, quand même, pour qui rentrer dans une librairie, c'est encore intimidant. Il y a une notion de cathédrale, il y a un grand silence. Moi, je peux entendre que des gens sont un peu complexés. Et également complexés par l'idée de l'histoire. J'ai beaucoup entendu, vous savez, j'ai pas la culture, je m'y connais pas bien, j'ai pas de notion en histoire, je vais être perdu. Et donc là, pour le coup, la fiction, que je vois aussi comme quelque chose de très politique. Moi, j'ai quand même un petit manifeste au fond de moi, toujours, sur le fameux « Il était une fois ». Je pense que le « Il était une fois », que l'imaginaire est une force politique ultra puissante, qui a moyennement la cote en ce moment. Quand on voit les parutions, par ailleurs excellentes, il n'est pas question de qualité ici, la rentrée littéraire, ou depuis quelques années, dans notre vie éditoriale française, c'est beaucoup axé sur l'autofiction. C'est la famille, c'est regarder le Goncourt là, et c'est formidable, c'est magnifiquement écrit, encore une fois, c'est pas le sujet.
La maison mais, de Laurent Mauguin.
Exactement, que ce soit Carrère aussi, qui est dans une exploration spéléologique de sa généalogie, et ce sont des livres absolument formidable. Mais on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans le « il était une fois ». Moi, j'ai un petit côté au fond de moi qui est toujours « raconte-moi une histoire ». C'est la littérature dans son acceptation étymologique, acte de fabulation. L'idée de la veillée, l'idée de « on est tous ensemble réunis », donc l'idée aussi du « vivre ensemble », ça c'est quand même la fiction qui arrive à faire ça. On est tous ensemble autour d'un feu et je vais vous raconter une histoire. Par ailleurs, histoire qui va changer de bouche en bouche, de troubadour en troubadour, parce qu'en fait, on va rajouter un épisode, on va en changer un. C'est un hommage au côté vivant de la littérature, qu'on a moins aujourd'hui quand même.
Et rire tous ensemble, Clara Dupont-Monod, tout à l'heure vous évoquiez le fait que le rire d'aujourd'hui est un rire compliqué, et dans vos ouvrages, dans La Confrontation par exemple, il y a du rire, c'est peut-être trop ambitieux, mais c'est du sourire, et déjà ça, c'est très difficile à offrir aux lecteurs ou aux lectrices, juste un sourire, et sur Elon Musk, il y en a quelques-uns qui sont très très bien, sur le choix des prénoms de ses enfants notamment, entre autres, voilà, c'est surtout ça aussi, c'est mettre du plaisir, le plaisir d'aller vers le passé et le plaisir simplement de la lecture. Donc La Confrontation, c'est publié chez Albin Michel, un négociateur du GIGN et un preneur d'otages, donc Elon Musk.
Voilà.
Merci beaucoup à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci Xavier.
Donc la confrontation, je l'ai dit, mais il y a aussi s'adapter. Et je sens que ça va donner beaucoup envie d'aller revisiter un petit peu qui était cette recluse là du XIIe siècle, la passion selon Jouette. Merci beaucoup Clara Dupont-Monod.
Ami, si vous rencontriez un chevalier, quoi donc feriez s'il vous frappait ?
Je frapperais.
Et si votre lance rompait ?
Eh bien, si je n'en avais plus, avec les poings lui courrait dessus.
Ami, cela ne ferait pas.
Que ferais-je ?
Par le combat de l'épée, il vous faut poursuivre. Ami, c'est de cette manière que vous attaquez l'adversaire et repousserez ses assauts. Allons maintenant au château, jouir enfin du repos.
Un petit clin d'œil à Perceval le Gallois, le film d'Éric Rohmer en 1978. Mais voici qu'arrive le fil histoire. Vous savez, cette chronique à retrouver chaque semaine dans le cours de l'histoire et en vous abonnant au podcast Le Fil France Culture, Culture G, sur les réseaux sociaux tous les jours. Ce sont des décryptages en économie, en sciences, en philosophie, avec des vidéos sur les réseaux. Aujourd'hui, dans le fil histoire, le médiéviste Emanuele Arioli, vous savez, l'auteur de Séguran, le chevalier au dragon. Eh bien, aujourd'hui, Emanuele s'empare de l'art d'aimer.
Comment séduire ? Comment trouver l'amour ? Au Moyen-Âge, bien avant Tinder et les autres applis de rencontre, on s'est posé déjà ces questions. Sauf qu'on ne cherchait pas les réponses dans les magazines ou sur les réseaux, mais dans les arts d'aimer. Les arts d'aimer sont de véritables encyclopédies d'amour, des manuels de séduction. Le plus célèbre au Moyen-Âge est le Tractatus de Amore, traité de l'amour, écrit vers 1184 par un clerc nommé André le Chapelain. Destiné aux nobles, ce livre fixe les 31 règles pour maintenir l'amour. Bref, la Bible de l'amour médiéval. Oui, car au XIIe siècle, dans une société en mutation, en forte croissance démographique et économique, la noblesse redéfinit ses codes. Comment se comporter à la cour ? Comment aimer ? Et dès la première règle, ça commence fort. Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer. Oui, vous avez bien entendu, l'amour hors mariage est encouragé. Pourquoi ? Parce que le mariage médiéval est avant tout un contrat social et patrimonial, souvent arrangé, voire forcé. Le mariage est une obligation, l'amour un choix. Au Moyen-Âge, mieux vaut être amant qu'époux si on veut garder la flamme. D'autres règles pourraient encore faire la une d'un magazine d'aujourd'hui. L'amour doit rester secret, s'il veut durer. Logique, puisqu'il est adultère. Un amour nouveau chasse l'ancien, déjà le conseil post-rupture. L'amant doit aimer une femme de conditions supérieures à la sienne. Autrement dit, l'amour comme ascenseur social. Chacun jugera de sa propre moralité. Oui, car l'amour courtois, la fine amour, l'amour parfait, en occitan, suit toujours la même logique. Un jeune homme courtise une femme mariée de rang plus élevé. La femme devient la domina, la suzeraine, la femme du seigneur. Et l'amant la sert comme un vassal. Il doit obéir, affronter mille obstacles pour espérer une récompense d'amour. Faut-il y voir une valorisation de la place de la femme dans la société ? Pas si vite. L'amour courtois est avant tout le jeu d'une communauté masculine, codifiée par les clercs, chantée par les poètes, imaginée par les romanciers. Les femmes sont les héroïnes silencieuses et idéalisées de ce grand théâtre amoureux. Fiction ou réalité ? Déjà dans les années 1980, l'historien Georges Duby s'interrogeait. Cet amour idéalisé a-t-il vraiment existé en dehors de la littérature et de l'art ? Ou s'agit-il juste du rêve des nobles de l'époque, une fiction sociale, plus qu'une pratique vécue ? Et aujourd'hui, pas de siège au château d'amour, mais des matchs sur Tinder. On ne jeûne plus sous une fenêtre en chantant des poèmes, on swipe, on envoie des DM et parfois on ghost. Mais l'imaginaire médiéval reste en toile de fond. Amour idéalisé, obstacle, conquête. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez une appli de rencontre, pensez à André le Chapelain. Au XIIe siècle, il avait déjà inventé le mode d'emploi de l'amour. 31 règles, parfois plus efficaces qu'en selfie bien retouchée.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, cette émission et toutes les précédentes, et à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.